bonsoir. Nous sommes bien sur l'émission hebdomadaire Une heure en Palestine, aujourd'hui animée par Brigitte de Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Vous pouvez retrouver cette émission le lundi entre 11h et 12h, toujours sur les ondes de Radio Galère. Si vous voulez suivre les activités de l'association, vous trouverez des articles, un agenda sur notre site assopalestine13.org. Et enfin, vous pouvez nous écrire par courriel à asso.palestine13@gmail.com. L'émission d'aujourd'hui s'est inspirée d'articles de plusieurs médias, et en particulier MEDA 972, Radio France Internationale, Le Monde, Mediapart, etc. Aujourd'hui, nous allons partager notre temps en deux grandes parties. La première sera sur la récolte des olives et la deuxième sur la décision récente de la CPI de lancer des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens et les dirigeants palestiniens. Nous allons donc commencer par le premier thème, la récolte des olives. Pourquoi ce thème aujourd'hui ? La guerre que mène Israël en Palestine a des répercussions énormes sur toute l'économie à Gaza, en Cisjordanie, comme à Jérusalem-Est. Et j'ajouterai aussi, et comme en Israël. En Cisjordanie, puisque on ne parlera que de la Cisjordanie aujourd'hui, vivent quelque 3 millions de Palestiniens qui subissent l'occupation depuis 1967, qui subissent le grignotage de leurs terres par quelque 450 000 colons israéliens. La récolte des olives, qui se termine ces temps-ci, a été plus que jamais entravée par l'agressivité des colons et de l'armée. Or, l'olive est une des cultures la plus importante pour les agriculteurs de la région. Non seulement pour ce qu'elle rapporte, l'industrie de l'huile d'olive représente 14% du revenu agricole des territoires palestiniens occupés et assure la subsistance d'environ 80 000 familles, selon les Nations Unies, mais aussi par son poids symbolique. Les agriculteurs palestiniens ne sont pas seulement désemparés par la perte de revenus, ils pleurent aussi leur rôle traditionnel de gardien de ces arbres. La récolte des olives est une pratique ancienne pour les familles palestiniennes, transmise de génération en génération. L'huile d'olive est un élément essentiel de la cuisine palestinienne. De nombreuses familles la préparent pour leur propre consommation et peuvent se suffire à elles-mêmes jusqu'à l'année suivante. L'olivier est lui-même un symbole du somoud, somoud que l'on peut traduire par résistance ou résilience, et constitue un élément important du lien du peuple palestinien à sa terre. Rappelons-nous que, dans bien des familles, un olivier est planté au moment d'une naissance, et nous avons en tête des images poignantes de femmes s'agrippant à un olivier que des colons s'apprêtaient à arracher, en criant que c'était l'arbre de leur père ou l'arbre de leur grand-père. Plus la colonisation a augmenté en Cisjordanie, et plus le vol de terres et les attaques contre des champs d'oliviers ont été multipliés. Nous parlerons dans cette émission à la fois des récoltes de 2023 et 2024, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de témoignages pour 2024, mais la situation est quasiment la même que l'an dernier. La récolte d'octobre 2023 avait déjà été particulièrement dangereuse et dans un contexte très grave depuis le début de l'année, puisque dans cette année 2023, le nombre entre janvier et septembre, on avait eu un record d'assassinats de Cisjordaniens, puisque ce nombre se montait à 199 en 9 mois. Mais les violences commises par des colons ont dangereusement augmenté durant la saison de la récolte des olives, donc après le 7 octobre l'an dernier. Les colons ciblent depuis longtemps les Palestiniens durant cette période de cueillette des olives, dans le but de perturber leurs moyens de subsistance par l'agriculture. Depuis 1967, rappelons-nous que les colons ont déraciné plus de 800 000 oliviers appartenant à des Palestiniens. En 2023, d'ailleurs comme en 2024, les paysans n'ont pas pu avoir l'aide et la protection d'internationaux pour les aider à la cueillette. De nombreux membres de nos associations à Marseille ont eu l'occasion d'aller en Palestine justement pour aider les paysans à la cueillette des olives. Mais là, depuis 2 ans, ce n'est plus possible. Et même l'aide de Palestiniens a été entravée. Ainsi, un habitant de Deir Dibouane, village tout près de Bourka, témoignait auprès d'un journaliste du Monde. Il y a 4 jours, le ministère israélien de l'Agriculture avait affrété quatre bus, avec des volontaires pour nous aider. Mais l'armée ne les a pas laissés passer. De même, un groupe de 35 volontaires israéliens anti-occupation est arrivé à Hébron pour soutenir les familles locales et aider à cueillir les olives. Ils ont été arrêtés par l'armée israélienne et empêchés d'atteindre les familles. Seuls quelques-uns d'entre eux ont réussi à se rendre jusqu'aux familles pour aider à la récolte. Or, les familles palestiniennes doivent souvent demander une autorisation spéciale à l'administration civile israélienne pour procéder à la récolte. La plupart de ces autorisations expirent au bout de 30 jours, alors qu'une récolte normale dure près de 2 mois. De plus, les colons israéliens brûlent fréquemment les arbres centenaires ou jettent des pierres sur les cueillères d'olives. De nombreux membres de la famille sont âgés et il peut falloir plusieurs jours pour cueillir chaque arbre, si plusieurs personnes ne participent pas à la récolte. Alors, quelques témoignages. Un premier témoignage qui nous dit « Avant, un soldat descendait et nous disait » Quand on dit « descendait », c'est parce que, comme vous le savez sans doute, la plupart des colonies sont sur des collines, sont en hauteur et dominent les villages et les champs palestiniens. Donc avant, un soldat descendait et nous disait « Vous avez 10 minutes pour partir ». Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, les colons viennent avec des fusils, tirent sur vous et vous disent de partir. La vague de violence croissante des colons signifie que les agriculteurs palestiniens qui cherchent à atteindre leur oliveraie sont contraints de choisir entre leur gagne-pain et leur sécurité. Les gens ont très peur, ils ne veulent pas risquer leur vie à cause des olives, mais ils sont vraiment déchirés. Il s'agit de leur mode de vie, de leur gagne-pain, de leur terre, a déclaré le docteur Kamar Mishrik Assad, avocat et co-directeur d'une ONG israélienne de défense des droits de l'homme. Cet avocat israélien poursuivait en déclarant que des messages circulaient sur les groupes Facebook et WhatsApp israéliens, appelant les colons à coordonner leurs efforts pour empêcher les agriculteurs d'accéder à leur oliveraie. L'un de ces messages demandait l'interdiction pure et simple de la récolte. Un autre suggère de pulvériser les arbres avec des produits chimiques. Je me demande quel goût il aura leur huile d'olive, a plaisanté un membre. Le 28 octobre, l'an dernier, Bilal Mohamed Saleh, 40 ans, a reçu une balle dans la poitrine alors qu'il cueillait des olives sur les terres de sa famille à Es-Sawiya, un autre village du nord de la Cisjordanie. Un colon lui a tiré dessus, devant ses proches, et il a saigné pendant une demi-heure avant de mourir. Son corps a été transporté jusqu'à la route sur l'échelle qu'il utilisait pour atteindre les olives, ont indiqué des témoins. Et pourtant, Salik avait cueilli des olives sur une partie de son terrain dont l'accès ne nécessitait pas de permis de l'armée israélienne, ce qui n'est pas le cas de la plupart des habitants d'Assaouia. Le village étant entouré de colonies de toutes parts, une grande partie des terres agricoles est bloquée par les restrictions militaires israéliennes et les habitants doivent obtenir un permis pour s'occuper de leurs arbres. Mais là, pour ce pauvre Palestinien, il n'avait pas besoin de demander, il a quand même été néanmoins tué par les colons. Nous allons faire une première petite pause en passant un extrait de lutte pour la Palestine de Wissam Joubran, qui est un Palestinien né à Nazareth, qui est connu comme joueur de oud et qui appartient au trio Joubran d'ailleurs. Voilà, donc un petit extrait musical de Wissam Joubran.
On s'est croisé dans le train, vous montiez pour, vers Amiens avec tes frères.
On va couper parce qu'on n'avait pas vu que ce n'était pas un morceau en lui-même, mais que c'était en plus un extrait musical. Voilà, ce n'est pas très grave. On va donc reprendre toujours sur la cueillette des olives, mais avec des échos que nous avons de la cueillette actuelle. Donc, comme on l'a vu depuis le 7 octobre, l'accaparement des terres se poursuit jour après jour en Cisjordanie, comme à Gaza, évidemment, et à Jérusalem, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Le 3 juillet, l'association israélienne La Paix Maintenant précisait qu'une décision administrative redéfinit comme terre dite d'État quelques 1270 hectares dans la vallée du Jourdain, ouvrant la possibilité de les attribuer à des colons juifs. Ces terres s'étendent sur les collines du nord de la Cisjordanie, entre Ramallah et Naplouse, autour de Shiloh, l'une des colonies les plus violentes de Cisjordanie. Reculées et peu peuplées, ces collines descendent en pente vertigineuse vers la vallée du Jourdain, une véritable serre à ciel ouvert qui marque la frontière avec leur Jordanie. Israël leur avait jusqu'ici attribué le statut de réserve naturelle et de zone militaire fermée, ce qui permettait à l'armée d'y détruire les constructions palestiniennes et d'en chasser les bergers. Désormais, ces terres relient quatre colonies, Yafit, Massoua, en amont, et Gittit et Maalé-Ephraïm en aval, en un seul bloc ouvert à toutes les possibilités d'aménagements ultérieurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que depuis tout à l'heure, la plupart des témoignages cités émanent d'associations solidaire israélienne qui documente tout ce qui se passe en Palestine, tous les méfaits qui se passent, qui essayent d'aider les Palestiniens. Donc c'est intéressant, c'est vraiment des témoignages de personnes qui sont allées sur place aider les familles et qui témoignent, bien qu'israéliens, de ce que leur gouvernement permet de faire. Alors, le grand orchestrateur de ce mouvement en Cisjordanie, de récupération toujours plus des terres, le grand orchestrateur de ce mouvement est le ministre des Finances et ministre de tutelle de la Cisjordanie au sein de la Défense, qui n'est autre que Bezalel Smotrich. Il se félicitait déjà en mai d'avoir fait accaparer par l'État plus de 1000 hectares en Cisjordanie, uniquement en février et mars. Il établit ainsi en 2024 un record absolu depuis les records de paix d'après les accords de paix d'Oslo de 93, selon le décompte de La Paix Maintenant, autre organisation israélienne. Il est important de revenir sur Bezalel Smotrich, colon israélien, suprémaciste juif, ministre des Finances de l'État hébreu. Il est aussi, de fait, le gouverneur de la Cisjordanie occupée. Car il a réussi à obtenir du Premier ministre Benyamin Netanyahou la création d'un sous-ministère rattaché à la Défense, donc à son ministère, pour la gestion des activités civiles en Cisjordanie. Donc, cette Cisjordanie, c'est une occupation prolongée qui est jugée tout à fait illégale par la Cour internationale de justice, qui a été jugé en juillet dernier comme tout à fait illégal. Et pourtant, donc, la catastrophe continue toujours de plus en plus, jour après jour, d'accaparement des terres. Le 29 mai 2024, ce même ministre Smotrich a nommé Hillel Roth adjoint en chef de l'administration civile, la branche de l'armée qui régente les territoires occupés. Donc c'est le bras droit du ministre. Issu d'une colonie réputée pour ses actions violentes, il est désormais l'autorité de référence pour le statut des terres en Cisjordanie, pour la planification, la construction du bâti résidentiel, toutes les infrastructures. C'est ainsi lui qui a signé fin juin de cette année le document officiel transformant cette région en terre d'État. Il chapeaute une administration que M. Smotrich a remaniée depuis 2023 en retirant aux militaires une large part de leur pouvoir pour les donner à ses hommes de confiance. Ces civils simplifient des processus administratifs complexes et privent le gouvernement d'une partie des leviers dont il disposait jusque-là pour freiner les entreprises des colons. Levier qui n'était pas vraiment très utilisé auparavant. Et en mai, M. Smotrich s'était félicité d'avoir bouleversé l'ADN même du système qui régit les territoires palestiniens sous l'autorité de l'armée depuis leur conquête en 1967. Donc tous ces territoires qui étaient sous l'autorité de l'armée sont maintenant dans les mains de Smotrich et de ses proches, hein, des civils qu'il a nommés auprès de lui. C'est donc dans ce contexte que s'est déroulée et que se déroule actuellement cette cueillette de 2024. Nous redonnerons un exemple pour cette année, qui est l'exemple de Bourka, qui est tout à fait significatif. Bourka est un village à 18 km à l'ouest de Naplouse, très impacté depuis longtemps par les agressions de colons. Nous avions nous-mêmes visité ce village en octobre 2022. Nous avions été reçus par des membres du conseil municipal qui nous avaient fait monter sur le toit de la mairie. Ils voulaient nous montrer une colline où, 2 mois auparavant, ils avaient planté 1 500 oliviers avec l'aide de l'Union européenne. 1 500 oliviers. Le lendemain, les colons les avaient tous arrachés. Et ils étaient incapables de nous dire si l'Union européenne avait émis quelques protestations envers le gouvernement israélien. En ce mois d'octobre 2024, Barakat Youssef Saïd tempête. Nous sommes encerclés par les colons. Ils viennent, ils volent et saccagent tout pour nous obliger à partir. Le septuagénaire dit avoir déjà perdu plusieurs parcelles de champs d'oliviers au fil des années. Mais depuis le massacre du 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, la situation, affirme-t-il, ne cesse de s'aggraver. En un an, nous avons documenté 20 attaques, approuve son fils, sur le seuil de la mosquée où le petit groupe s'est retrouvé. Avant la guerre, des colons avaient déjà brûlé des oliviers près de chez moi, assure un autre habitant, Ashraf Moussa Nawabit. Je suis allé voir les soldats israéliens, qui sont censés nous protéger, mais ils m'ont répondu que ce n'était pas leurs affaires. On a aussi appelé les pompiers, mais l'armée ne les a pas laissés venir jusqu'ici. Sur une arête de la colline, des arbres roussis sont bien visibles. Les 3 colonies qui cernent Bourka ne sont pas nouvelles. Mais les avant-postes illégaux, ces implantations que même les lois israéliennes n'autorisent pas, s'étendent et accroissent la pression sur la population. Donc déjà difficile en 2023, la récolte des olives qui a officiellement commencé cette année le 15 octobre sur tout le territoire, selon les instructions de l'autorité palestinienne. Cette récolte s'est présentée cette fois encore sous les pires auspices. La situation est compliquée, avec le manque de pluie, mais surtout parce que les colons deviennent de plus en plus violents. Certains sont armés. Ils arrivent et nous disent de partir en laissant tout sur place, alors que c'est la terre de nos grands-parents, s'insurge Liad Aboud-Gargoud, 30 ans. Il a entouré une petite parcelle d'oliviers de dérisoires palissades de bois. Accompagné de sa famille, il cueille à la main les fruits d'un arbre centenaire. Partout, en Cisjordanie, les incidents se sont multipliés. Entre le 3 et le 15 octobre, l'ONG israélienne Yesh Din, spécialisée dans la défense des droits palestiniens, a recensé plus de 36 attaques de colons contre des cueilleurs d'olives. uniquement entre le 3 et le 15 octobre, et uniquement en Cisjordanie. Agression physique, vol de récolte, vol de matériel, arbres coupés, arbres brûlés, les assauts sont multiples. Dans une large majorité des cas, l'armée, la police ou les agents de sécurité israéliens étaient présents, affirme Yeshdine, et ils ne sont pas intervenus. Or, les agriculteurs palestiniens, dont les terres sont situées à proximité d'implantations illégales, sont censés coordonner leurs déplacements avec l'armée pour se protéger ou pour être protégés des extrémistes juifs et obtenir des permis. Cette année, rien de tel. À Bourka, aucun permis n'a été délivré. Accablés, certains Palestiniens ne semblent même pas les avoir sollicités. Beaucoup renoncent aussi à porter plainte contre les spoliations ou les violences dont ils font l'objet. Les poursuites sont toujours inexistantes. Sollicité par le journal de Le Monde, l'armée nie, contre toute évidence, ces incidents dont elle affirme ne pas avoir eu connaissance. La saison de la récolte, avance un porte-parole, a été planifiée, coordonnée avec toutes les parties concernées. Les forces de l'armée israélienne étaient déployées pour sécuriser les zones coordonnées pendant cette période. Donc, il nie totalement la réalité. À l'exception du drame qui s'est déroulé le 17 octobre dans la région de Jenin et qui a entraîné l'ouverture d'une enquête, nous rappelons que ce jour-là, Hanan Abdelrahman Abou Salama, 59 ans, a été tué par le tir d'un soldat alors qu'elle cueillait des olives près du mur qui sépare la Cisjordanie d'Israël, dans une zone où, selon le quotidien Haaretz, cette zone ne nécessitait même pas de coordination avec l'armée. Mais en dehors de ce cas-là, les poursuites ne sont jamais engagées. Dans l'un des trois moulins à huile de Der Dibouan, où se rendent également les habitants de Bourka, Tamer Awanda veille sur ses machines. Des olives sautillent sur le tapis roulant. Cette année, j'ouvre deux fois moins que d'habitude, dit-il. Ici, la production est en baisse de 18% à cause du manque de pluie et de la violence des colons. À Bourka, c'est moitié moins. Ils n'ont produit jusqu'ici que 3000 litres d'huile d'olive, dit-il. On peut dire pour terminer cette partie-là que les conditions de cueillette des olives permettent de mettre en relief l'accaparement toujours plus intense des terres palestiniennes, l'impunité totale des colons face à des actes d'une violence inouïe, l'isolement toujours plus fort des paysans palestiniens qui non seulement ne peuvent plus bénéficier d'aides qui contribuent à les protéger quelque peu, puisque les internationaux, les solidaires israéliens et même les Palestiniens sont interdits de se rendre sur les lieux de cueillette. Il est encore plus clair depuis un an que le but d'Israël est l'annexion de toute la Cisjordanie. Nous allons faire une deuxième coupure musicale en écoutant Ya Balala d'Amal Mourkous.
شفتها زادت دلالة على اللي بحبه وجمه ولا راح بترد علينا لا يا لا 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 يا طير يا طير يا طير يا طير صوب مش دايل يا طير صوب مش دايل سلم وزيد السلام يا بسلم على الخسرة مايل سلم على الخسرة مايل وإن شفت الحلوة الميالة العيون عيون الغزالة ولا بتهجرها بندردها لكن ما منعش أبدالة يا بنا لا 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 بتريد تحكينا ولا يا بنا لا 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 رح بترد علينا ولا رح بترد
C'était Yabalala de Amal Mourkous, qui est une chanteuse et une actrice palestinienne de renommée internationale. Voilà, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, qui est de revenir sur les mandats d'arrêt délivrés par la CPI la semaine dernière. C'est un événement que nous étions plusieurs à attendre. Des mandats d'arrêt ont été livrés par la CPI contre Benjamin Netanyahou, Yaev Golant, son ancien ministre de la Défense, qui l'avait limogé depuis peu. Nous ne mettons pas, évidemment, de signaler se prononcer contre des Palestiniens, mais deux d'entre eux, Ismaël Haniyeh et Yahya Sinwar, ont été tués par Israël ces derniers mois. Il reste donc côté palestinien un mandat d'arrêt contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, bien qu'Israël affirme l'avoir également tué. Donc tous les trois, les motifs du mandat d'arrêt sont crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI a en effet déclaré avoir trouvé des motifs raisonnables, ce sont les termes de la CPI, des motifs raisonnables de croire que messieurs Netanyahou et Galant étaient pénalement responsables du crime de guerre, de famine comme méthode de guerre, ainsi que de crimes contre l'humanité, de meurtre, de persécution et d'autres actes inhumains. La CPI a affirmé que les deux hommes portent également la responsabilité pénale en tant que supérieurs civils du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement une attaque contre la population civile. Ils ont sciemment privé la population civile de Gaza de choses indispensables à sa survie, notamment de nourriture, d'eau, de médicaments, de carburant, d'électricité. En ce qui concerne le crime de guerre de famine, la juridiction a déclaré que ce manque de nourriture, d'eau, d'électricité, de fournitures médicales spécifiques a créé des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population civile de Gaza. Cela a entraîné la mort de civils, y compris d'enfants, en raison de malnutrition et de déshydratation, a encore écrit la Cour. Selon la chambre préliminaire, puisqu'il faut savoir que ces examens par la CPI de crimes contre l'humanité éventuels de telle ou telle personne se passe en de nombreuses phases, et donc là, on est vraiment en phase préliminaire. Les faits concernent les activités des organes gouvernementaux israéliens et des forces armées contre la population civile de Palestine, plus particulièrement les civils de Gaza, commis dans le cadre d'un conflit armé international et entre une puissance occupante et la population d'un territoire occupé. C'est très important que les choses soient mises sous cette forme-là, une puissance occupante et la population du territoire occupé. Ce n'est pas une guerre de deux États l'un contre l'autre. Pour la première fois, la Cour s'est entourée de toute une série de tiers, d'universitaires, d'États, qui sont intervenus pour faire valoir des observations auprès de la Chambre préliminaire, y compris d'ailleurs des observations de l'État d'Israël, évidemment. Certes, il y a peu de chances que Netanyahou soit arrêté prochainement. Les pays qui devraient le faire, s'ils se posaient sur leur territoire, sont divisés. Comme vous l'avez peut-être vu, Orban l'a déjà invité à se rendre en Hongrie. Mais ce qui est certain, c'est que cela va impacter ses déplacements et va sans doute avoir des répercussions sur les ventes d'armes. Mais il ne faut pas oublier que les conséquences risquent fort aussi d'impacter la CPI elle-même. De très fortes pressions pesaient sur elle depuis des mois. Il faut savoir que les États-Unis et Israël ont tout fait depuis des mois pour dénigrer la CPI et pour essayer que ces décisions de mandat d'arrêt ne sortent pas. Sauf que maintenant que les trois juges qui ont signé ces mandats d'arrêt et le bureau du procureur et le procureur peuvent parfaitement souffrir eux-mêmes de mesures d'interdiction de visa, de sanctions financières, de poursuites internes dans les États qui s'élèvent contre cette mesure. Israël, naturellement, mais aussi les États-Unis, qui rejettent ces mesures, ces deux États les considérant d'ailleurs comme antisémites. Bref, peuvent être victimes de toute une série de procédures bâillons ou de sanctions pour les punir. Ni Israël ni les États-Unis ne sont membres de la CPI, mais il n'en est pas moins vrai que 124 États en sont membres. Alors, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a déclaré que ces mesures devaient être respectées et appliquées. Et qu'en est-il de l'État français ? Le porte-parole du Quai d'Orsay a d'abord déclaré que la France serait en ligne avec les principes de la justice internationale. Sur ce dossier, comme sur tous les autres, nous soutenons l'action du procureur de la Cour qui agit en toute indépendance, indique encore le ministère, qui ajoute « La lutte contre l'impunité est notre priorité. Nous avons ratifié le statut de la Cour pénale internationale dès 2000 et nous apportons un soutien continu à l'action de la CPI. » Donc ça, c'était les déclarations du Quai d'Orsay au moment où la CPI a fait part de ses mandats d'arrêt. De même, d'ailleurs, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, prenait la même position, disant que la France devrait arrêter Netanyahou s'il se présentait sur son sol. Mais non, en fait. Ça a été les premières déclarations. Mais après 48 heures de réflexion, au gouvernement et au Quai d'Orsay, pour chercher un moyen de ne pas appliquer la décision de la CPI, ils ont trouvé une faille. Le Quai d'Orsay précise en effet que ce statut prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations, en vertu du droit international, en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI comme Israël. Or, de telles impunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en compte si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise, poursuit le ministère. Plus clairement, comme Israël ne reconnaît pas la CPI, Netanyahou ou Galant ne seraient donc pas arrêtés à Roissy par la police française s'ils leur prenaient l'idée de venir en France. pour résumer, pour la France, immunité égale impunité. Mais on était prévenus. Souvenons-nous de ce que Retailleau avait dit récemment. L'état de droit, ça, ce n'est pas intangible ni sacré. Alors évidemment, des réactions commencent à venir. Donc entre autres, je peux dire que citer la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, qui a qualifié de honte la position du Quai d'Orsay, en disant « La France se plie une fois de plus aux exigences de Benyamin Netanyahou en le choisissant lui plutôt que la justice internationale. » Elle a dénoncé cela sur X mercredi, après la publication du communiqué. Et elle ajoute « Sûrement était-ce le deal pour que la France soit citée dans le communiqué d'annonce officielle du cessez-le-feu au Liban, publié conjointement par la France et les États-Unis », a ajouté Marine Tondelier. À noter aussi que 11 organisations françaises ont demandé au chef de l'État de respecter ses engagements. Je vais les citer parce que ce sont toutes des associations amies avec lesquelles nous travaillons. La plateforme des ONG pour la Palestine, qui regroupe pas mal d'associations. Évidemment, l'association France-Palestine Solidarité, dont nous faisons partie. L'ORDIP, qui est une association d'universitaires. Le CCFD Terre Solidaire, la CIMAD, Chrétiens de la Méditerranée, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, Pax Christi France et l'Union juive française pour la paix. Et la pression doit continuer. Le droit international n'est donc pas tout à fait mort, alors que beaucoup disaient que le droit international ne servait plus à rien, que toutes les instances internationales n'avaient plus aucun pouvoir. Et en fait, depuis des décennies, c'est ce que réclament l'application, les Palestiniens, c'est l'application de ce droit international. Et donc les Palestiniens peuvent donc retrouver un petit peu d'espoir. La CPI vient de condamner en quelques mois Poutine, bien que la Russie soit un des membres permanents du Conseil de sécurité, et maintenant ils viennent de condamner les dirigeants d'un État considéré comme une démocratie alliée des Occidentaux, Israël. L'autorité palestinienne voit pour sa part dans la décision de la CPI un signe d'espoir et de confiance dans le droit international et ses institutions. Mais délivrer un mandat d'arrêt ne vaut pas culpabilité. À ce stade, Netanyahou, Galant et Deif ne sont jugés coupables de rien, mais ils sont officiellement recherchés. Donc avant de voir une dernière partie sur la façon dont réagissent les sociétés civiles à tout cela, nous faisons une dernière petite coupure musicale.
شعرك ده وبيلزم وكلب ده
القمر لما عدت قبل جرار عندي إلك شهد وعسل أصل ورد بس من نحل شعار عندي إلك ورد وغزل مثل الخمر لما عدت قبل جرار عندي إلك شهد وعسل أصل ورد بس من نحل شعرك ده وبيلزمه بكلك ده بس بدك مدفون بجوا البلد لو في بلد لو في بلد كل ده بيهون شعرك ده وبيلزمه بكلك ده بس شعرك أحلو أنعفو أمحب شمس الجروح وبسمي بوجهك هالحلو نجم بسما المسجور شعرك أحلو أنعفو أمحب شمس الجروح وبسمي نجم بسما المسجون شعرك ده وبيلزمه كلك ده بس الدهب مدفون بجوا البلد لو في بلد لو في بلد كل الدهب بيهون شعرك
Voilà, donc nous reprenons notre émission Une heure en Palestine pour voir un petit peu comment la société civile s'implique un peu partout à travers le monde face à ce génocide horrible qui continue à se poursuivre, à l'accaparement des terres, aux assassinats ciblés de plus en plus fréquents aussi en Cisjordanie. On sent très bien que même si des gouvernements restent totalement tièdes et ne prennent pas position, un peu partout, les sociétés civiles se lèvent et protestent contre ce qui se passe. Et il faut plus que jamais continuer à se mobiliser. À noter qu'une initiative s'est déroulée aujourd'hui même à Strasbourg, à 13h, devant le Parlement européen, à l'appel de nombreuses associations françaises et européennes, syndicats, partis, appel qui s'appelait « Brisons le mur du silence ». Et il était précisé que il était demandé que l'Union européenne prenne ses responsabilités par l'arrêt immédiat de l'agression du peuple palestinien, cessez-le-feu, arrêt du génocide en cours, fin de l'occupation, de la colonisation, de l'apartheid, protection du peuple palestinien. Deuxième point, la fin de l'impunité d'Israël, des sanctions maintenant, ainsi que la suspension de l'accord d'association entre l'Europe et Israël. Et dernier point, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Justice, égalité, liberté et reconnaissance de l'État de Palestine. Donc je n'ai pas pu voir beaucoup d'informations puisque ça s'est déroulé tout à l'heure. Il semblerait qu'il y avait aux alentours de 600 personnes qui se trouvaient devant le Parlement européen à 13h aujourd'hui. Alors, lors de chaque émission hebdomadaire, nous vous redonnons les manifestations qui sont prévues à Marseille dans les jours qui viennent. Donc nous sommes le 27 novembre, donc le 29, dans deux jours, à 18h. Vous êtes invités à venir au métro réformé, d'où démarrera une marche au flambeau pour commémorer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Marche au flambeau qui, si je me souviens bien, doit aller jusque vers la mairie. Toujours ce même 29 novembre, dans un tout autre ordre d'idées, il y a Camilla Joubran, qui est joueuse de oud et chanteuse, qui se produira à 20h30 à la Cité de la Musique, à la rue 4 rue Bernard Dubois, à Marseille. Donc c'est pratiquement à la porte d'Aix. Alors dimanche verra aussi plusieurs manifestations, dimanche 1er décembre. Tout d'abord à une heure peu habituelle, donc retenez bien cela, à 10h30 au local solidaire au 29 boulevard Longchamp. Il y aura une conférence suivie d'un buffet solidaire, conférence nommée « Les résistances palestiniens d'hier à demain » avec Ramzi Baroud, historien et directeur de la publication « Chronique de Palestine », publication dont nous nous inspirons très souvent pour les émissions de radio. Toujours le 1er décembre, il y aura, comme tous les premiers dimanches de chaque mois, à la Cité des Arts de la Rue, un stand route du Zaatar, donc c'est aux Égalades, au 225 avenue Ibrahim Ali, dans le 15e. Et cette fois-ci, en plus des produits de la route du Zaatar, Abed, un réfugié politique de Gaza, vendra des objets au profit des survivants de sa famille à Rafah. Et enfin, évidemment, comme tous les dimanches, nous vous rappelons la manifestation à la Porte d'Aix à 14h, qui partira de la Porte d'Aix. Ensuite, le 4 décembre, si vous n'avez pas encore pu aller le voir, puisqu'il passait aux variétés ces temps-ci, je ne sais pas si ça s'est terminé hier ou pas, le film No Other Land, qui est vraiment un film qu'il faut voir, sur la façon dont Israël s'accapare les terres, et là il s'agit de l'accaparement des terres dans le sud de la Cisjordanie, au sud d'Hébron, des terres appartenant à des Bédouins, autour de toutes les petites communes, autour de Massafer Yatta. Ce film est vraiment excessivement parlant. Et donc, après les variétés, il va passer à l'Alhambra, dans le 16e, le 4 décembre à 20h15. Et dans ce même lieu, il passera également le vendredi 6 à 16h30. Enfin, le 6 décembre, donc vendredi prochain, à 18h, toujours au local solidaire au boulevard Longchamp, il y aura la projection d'un film, sans doute The Lab, suivi d'un débat et surtout d'un buffet solidaire au profit de Mariam Aboudaka, que nous avions accueillie il y a un an. Et vous vous souvenez qu'elle avait été expulsée par notre ministre de l'Intérieur en Égypte, où elle se trouve toujours dans des situations matérielles très difficiles avec de nombreux autres Palestiniens qui ont pu quitter Gaza mais qui sont bloqués en Égypte. Et donc ce sera à leur profit, ainsi que pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Voilà donc pour les manifestations de cette prochaine semaine. Donc vous voyez, la société civile se mobilise, de nombreuses associations sont solidaires de la Palestine. Et donc, je crois qu'il faut toujours continuer à soutenir toutes ces actions parce que les Palestiniens sont au courant de ce qui se passe. Et pour leur morale, ils nous disent tous que c'est vraiment très important de savoir qu'ils ne sont pas oubliés par le monde. Voilà, il nous reste quelques minutes. Et donc, je voulais vous faire part de la sortie d'un ouvrage qui vient de sortir, publié par Orient 21 et Libertalia. Qui est un poème en français et en arabe, de poèmes de Gaza, une édition bilingue. Le titre du livre, c'est « Que ma mort apporte l'espoir ». Et donc, ce sont des poèmes écrits par des Gazaouis. Ceux que j'ai sélectionnés sont tous écrits depuis cette dernière année, mais il y en a d'autres écrits précédemment. Donc voilà, je vais commencer par vous lire un poème de Otman Hussein, qui est poète à Gaza, et qui a écrit ce poème sous les bombardements du 21 octobre 2023. Le titre, c'est « La guerre ne s'était pas endormie ». Et ça fait référence, vous savez que les Gazaouis n'ont pas arrêté d'avoir des guerres successives en 2008, en 2014, ça n'a pas arrêté. Et donc, je crois qu'ils sont tous intimement persuadés que ce n'est jamais la dernière, malheureusement. Donc le titre de ce poème, c'est « La guerre ne s'était pas endormie ». Elle était tranquillement assise, la guerre. Puis elle s'est levée, timide les premiers jours, dissimulant son visage et son souffle. Le premier mort aura un nom et un numéro, et peut-être se rappellera-t-on jusqu'à la couleur de ses chaussures. Fera-t-on résonner trompettes et tambours ? Il aura de la chance. Le martyr, dira-t-on de lui. Puis les nombres se multiplient, sans numéro et sans récit. La guerre s'est enfin dressée, grande discorde funeste. Elle ne s'était point assoupie, comme elle l'avait prétendu. Puis je voulais vous en lire un deuxième. C'est un poème de Rifat Al-Harir, « Que cela devienne une histoire ». Ce poète et écrivain, qui était né en 79 à Gaza, a été ciblé par un bombardement israélien le 6 décembre dernier. Il enseignait la littérature anglaise. Il avait cofondaté l'association « We are not numbers », »,« Nous ne sommes pas des chiffres », qui mettait en relation des auteurs expérimentés avec des jeunes écrivains de Gaza. Donc c'est un de ses derniers poèmes, « Que cela devienne une histoire ». S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il est écrit que je dois mourir, alors que ma mort rapporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Et je vais encore prendre le temps de vous lire un dernier poème qui est d'une femme, Fida Ziyad, poétesse de Gaza, qu'elle a écrit sous les bombardements le 24 octobre 2023, qui s'appelle « À travers les yeux de trois enfants ». Je vis ce génocide à travers l'imaginaire de trois enfants. Le premier se cachait sous les draps en disant « Je voudrais être un fantôme pour que les avions ne me voient pas ». Le deuxième disait, du fracas des navires de guerre, « C'est la voix de la pieuvre dans la mer ». Et le troisième, une petite fille, « Je voudrais être une tortue pour cacher tout le monde sous ma carapace. » Oh, toi, la main de l'imaginaire, berce le sommeil de ces petits, préserve pour eux tous ces rêves. Oh, toi, la main de l'imaginaire, ne va pas plus loin que l'horreur du réel. » Voilà, nous nous arrêterons. On aura certainement l'occasion d'en lire d'autres parce que je trouve que c'est des poèmes absolument poignants. et qui s'inscrivent dans une situation tellement horrible. J'ai du mal, moi, à me dire que sous les bombardements, des humains ont encore la force d'écrire des poèmes de ce genre-là et de vouloir transmettre ce qu'ils ont en eux et ce qu'ils pensent. Voilà, donc l'émission Une heure en Palestine peut être réécoutée lundi entre 11h et midi sur Radio Galère. Et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 18h sur cette même antenne. Voilà, bonne soirée, au revoir.